Bonjour à tous. Il y a dans notre Bible des livres qu'on préfère à d'autres. Il y en a qu'on aime bien lire et relire. Et puis il y en a d'autres, si on est par exemple en train de faire une lecture biblique annuelle, quand on ouvre le premier chapitre, on se dit « ce livre, il va être long et pénible ». Mais le Seigneur nous a ordonné de prêcher la parole et toute la parole, y compris les textes que l'on n'aime pas trop. Et c'est ce que nous allons faire ce matin dans une prédication qui, je le préviens d'emblée, risque d'être un peu plus longue que ce que l'on a l'habitude d'avoir. Ça dépendra aussi de comment le Seigneur m'inspire en cours de route, car des fois il est surprenant. J'ai intitulé le message aujourd'hui « La pureté de la foi » et comme c'est affiché, nous allons lire le livre qui est parmi les moins aimés, si je puis dire, de l'Écriture, le livre du Lévitique. L'Église, vous le savez probablement, je l'espère en tout cas, est une communauté de prêtres et une nation sainte, c'est ce que dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, terme qui est repris d'ailleurs comme nous allons le voir. Il est donc utile de considérer ce que cela signifiait sous l'ancienne alliance. Quand nous parlons de sainteté, plusieurs notions nous viennent à l'esprit. Sanctification, présence de Dieu, culte ou encore le fameux pureté. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette notion de pur et d'impur. En effet, le texte que nous allons étudier se situe dans les lois sur la pureté rituelle, chapitres 11 à 15 du livre du Lévitique. Et la première question que nous pouvons nous poser est donc la suivante. Quel est le rapport entre sainteté et pureté? On trouve un élément de réponse dans le livre de l'Exode au chapitre 19, donc c'est Dieu qui parle. « Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Donc en fait, c'est ce que Dieu disait déjà au peuple d'Israël et c'est ce qui nous est répété par le biais de l'apôtre. Autrement dit, ces deux notions-là n'ont pas changé. Elles n'ont pas sauté avec le changement d'alliance. Israël est saint, mais il est appelé à se purifier. La loi que Dieu a donnée à Moïse, et plus particulièrement le livre du Lévitique, nous montre qu'il y a différents degrés de sainteté. L'Israélite est saint, et le prêtre aussi. Mais ce dernier a un niveau de sainteté supérieur au simple Israélite. Puis le grand prêtre a, lui, un degré supérieur de sainteté par rapport au prêtre. Israël est saint, mais encore plus saint, il y a le prêtre, et encore plus saint, il y a le grand prêtre. En Israël, le profane est celui qui a un degré de sainteté insuffisant pour pouvoir fonctionner comme prêtre. La pureté rituelle est donc une condition de la sainteté. La pureté morale en est une autre. Concernant ces lois sur la pureté rituelle, Dieu va dans un premier temps donner celles sur les animaux purs et impurs. Ensuite, il va donner celle sur la purification après un accouchement. Puis il donne celle sur la purification pour les maladies de peau et les moisissures qui rendent impures. Voilà donc le cadre du livre dans lequel se trouve le texte qui va nous intéresser ce matin. À partir de ce sujet qu'est la pureté, je vous propose de voir trois éléments pour une bonne compréhension du sujet pour nous qui croyons. Premier, c'est une foi pure, la religion authentique. Le deuxième, c'est l'impureté, symptôme du péché. Et le troisième, c'est notre pureté acquise par le Christ. Peut-être là l'élément le plus frappant. La foi pure, la religion authentique. Alors, je vous ai vendu une lecture difficile. Pas vraiment fun, surtout pour les jeunes qui sont peut-être restés. Mais, nous le croyons fermement ici, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, toute l'Écriture est parole de Dieu, et donc le chapitre du Lévitique 14 est inspiré aussi de Dieu, il est pleinement parole de Dieu. Je vais faire la lecture du chapitre 14, je ne vais pas le lire en entier, je vous rassure déjà, mais vous allez voir que c'est déjà dense comme lecture. Lévitique 14, verset 1, je vous invite à prendre vos Bibles, je ne l'ai évidemment pas écrit parce qu'il y avait beaucoup trop de textes et j'aurais passé mon temps à passer des slides. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. On l'amènera au prêtre, qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera qu'il apporte, en vue de sa purification, deux oiseaux purs vivants, du bois de cèdre, du fil rouge éclatant et une branche d'hysope. Le prêtre donnera l'ordre d'égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient de terre cuite rempli d'eau douce. Puis, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le fil rouge et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé, sur l'eau de source. Il en fera sept fois aspersion sur celui qui doit être purifié de son affection de la peau. Il le déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans la nature. Celui qui est soumis au rite de purification nettoiera ses vêtements, se rasera tous les poils et se lavera à l'eau, ainsi il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp, mais il restera hors de sa tente pendant sept jours. Le septième jour, il rasera tous les poils de sa peau, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tout autre poil. Il nettoiera ses vêtements, se lavera à l'eau et alors il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis dans sa première année sans défaut. Il y ajoutera 9 kg de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui procède à sa purification le placera avec tout cela devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de réparation avec l'huile offerte. Il fera devant l'Éternel le geste de présentation. Il égorgera l'agneau au lieu où l'on immole le sacrifice pour le péché et l'holocauste dans ce lieu saint. Car la victime du sacrifice de réparation revient au prêtre comme le sacrifice pour le péché. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang de sacrifice de réparation et en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui, qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, il prendra le demi-litre d'huile et en versera un peu sur le creux de sa main gauche. Il y trempera l'index droit et fera sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Puis il appliquera de l'huile qui reste dans le creux de sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où il a mis du sang du sacrifice de réparation. Il versera ce qui reste d'huile dans sa main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire le rite d'expiation pour lui devant l'Éternel. Après cela, il offrira le sacrifice pour le péché afin d'accomplir le rite d'expiation pour celui qui se purifie de son impureté. Ensuite, il immolera l'holocauste. Il placera l'holocauste avec l'offrande sur l'autel. Ainsi, il accomplira le rite d'expiation pour cet homme et il sera pur. Ah, c'est bon, on peut souffler. Et oui, je vous avais prévenu, ce ne sont pas les lectures les plus agréables. Je pense même que le Lévitique est probablement le livre qui, dans notre Bible, on a lu le moins. Ouais, oh, le Lévitique, bah, je vais préférer lire un évangile, c'est plus sympa quand même. Hein. Là, on parle de l'amour, on ne parle pas de règles qui se succèdent, qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, ni queue ni tête pour nous. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Reconnaissons-le, ce ne sont pas les lectures bibliques que l'on préfère. On préfère plutôt parler d'amour, de la joie, du bonheur, etc. Mais on aime moins quand le texte nous met face à des règles difficiles. Surtout dans notre société occidentale dans laquelle on préfère s'émanciper des règles pour vivre une liberté débridée, utopique. Pourtant, quand je regarde la façon dont les auteurs de l'Ancien Testament parlaient de la loi, je m'interroge. Je ne vais pas le faire là, mais si par exemple nous lisons le psaume 1 ou le psaume 19, qui sont des psaumes qui parlent de la loi, la manière dont l'auteur les présente. « Oui, je les médite jour et nuit, je trouve ma joie dans la loi de l'Éternel. » Quand ils lisaient ça, ils trouvaient leur joie dedans. C'est intéressant que nous, ce ne soit plus trop le cas, hein. Quand on lit ça, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous voyons de la loi de la même manière, avec autant de bonheur et de plaisir que les anciens lecteurs en avaient. Cela est probablement dû au fait que nous croyons que la loi est obsolète, qu'elle ne nous concerne plus, que nous n'avons plus rien à en tirer, qu'elle était utile pour le peuple d'Israël, mais que pour nous qui vivons sous la Nouvelle Alliance, c'est du passé. C'est une fausse idée, je vous le dis d'emblée, que je ne vais pas traiter ici car c'est un sujet un peu long. Juste pour rappel, le Seigneur a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir », ce qui n'est pas la même chose. Je ferme la parenthèse. Désormais, nous ne vivons plus, ouvrez les guillemets, car je vais citer quelque chose que vous avez sûrement entendu et que peut-être même vous vivez, nous ne vivons plus une religion, mais nous vivons une relation avec Dieu. Ah, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Je l'entends très régulièrement. Mais est-ce que c'est juste? Cette fameuse phrase que le chrétien aime bien sortir pour prouver à ses contemporains non-croyants que le christianisme, ça n'a rien à voir avec les autres courants spirituels conventionnels. L'idée, en embuscade, est de nous prémunir contre certains préjugés négatifs liés à l'idée de religion, comme l'étroitesse d'esprit, l'hypocrisie, l'ascétisme, etc. S'il est vrai que la foi chrétienne est une relation entre le croyant et le Fils, entre le croyant et Dieu le Père, entre le croyant et ses frères et sœurs, entre le croyant et son prochain, affirmer qu'elle n'est pas une religion pose, à mon avis, quelques difficultés. Le Larousse propose la définition suivante du mot « religion ». Ensemble déterminé par des croyances et des dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances, adhésion à une doctrine religieuse. Si la foi chrétienne est effectivement une relation, il ne s'agit pas de le nier. Il nous faut reconnaître que la Bible est pleine de commandements, du bout, du début à la fin, d'un bout à l'autre, dont l'intention n'est pas d'étouffer la relation avec Dieu, mais de la définir et de la protéger. Vous me voyez peut-être venir. Jésus fustige à plusieurs reprises l'attitude hypocrite des pharisiens à l'égard de la loi, parce que ces spécialistes de la loi ne l'appliquaient pas avec la bonne disposition. Ils préféraient se montrer au détriment de la justice et de l'amour de Dieu. Car la justice et l'amour de Dieu, c'est là le cœur d'une religion que Dieu approuve. Jacques aborde d'une très belle manière cette réflexion quand il dit ceci, Jacques 1, verset 27, « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Mais quelle est donc cette religion dont parle Jacques? Il s'agit d'accueillir la parole de Dieu, l'Écriture, continuellement, et de lui obéir. La Bible ne doit pas être seulement écoutée, elle doit être traduite en actes. Comme le souligne Cédric Eugène, que vous connaissez probablement car c'est un membre de l'AEI, dans le livre « Parlons mieux », il dit ceci, « La religion représente tout à fait ce que nous signifions lorsque nous parlons d'œuvres, de rituels ou de cérémonies, c'est-à-dire d'expressions extérieures de la foi. Ainsi, que de la crainte et de l'amour de Dieu qui, eux, sont intérieurs. Autrement dit, la religion vraie est celle qui découle de l'observation de la loi parfaite, qui est, je vous le rappelle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on pratique ça, on met en œuvre la foi authentique. C'est de la religion. La religion vraie est faite d'actes qui traduisent l'amour du prochain et en définitive l'amour envers Dieu, l'autre commandement. Ce qui importe n'est pas l'acte en lui-même, mais sa finalité, l'amour. La religion chrétienne se distingue donc de cette manière. Elle surgit de l'amour et finit par l'amour. Cet amour se traduit par des œuvres concrètes, des rites et des cérémonies. Tiens, d'ailleurs, vous êtes venu ce matin rendre un culte. C'est un rite que vous êtes en train de faire. La foi est une relation avec Jésus, pas une religion. Cette phrase si spirituelle n'est en fait, à mon sens, pas tout à fait juste. Si la relation avec Dieu est bien entendu fondamentale, centrale, elle nous conduit à en comprendre la dimension religieuse comme le moyen de donner corps et de protéger cette relation. C'est un peu ce que l'on fait aussi dans un mariage. Hein. On met des règles. Je m'engage à n'être qu'avec toi. Autrement dit, je ne vais pas aller voir quelqu'un d'autre. C'est un cadre pour exercer l'amour du mariage. Avec cette manière de voir les choses en définitive, la loi de Dieu n'est-elle pas parfaite? N'est-elle pas belle? N'avons-nous pas envie de mettre notre joie dedans et de la méditer jour et nuit à l'image du psalmiste? Si nous revenons à notre texte du Lévitique sous l'Ancienne Alliance, sans Christ, la relation avec Dieu exigeait de nombreux rites, dont ceux pour la pureté. Pourquoi? Et c'est ce que je nous invite à regarder dans ce deuxième point de la foi, l'impureté, symptôme du péché. Comme cela a été dit en introduction, la pureté rituelle est une des conditions de la sainteté. Lorsque l'on va rencontrer une personnalité, normalement, on se prépare physiquement à cette rencontre. J'imagine, je le suppose fortement, que si demain, que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, là n'est pas le sujet, vous êtes convoqué à l'Élysée pour rencontrer le président de la République, je ne pense pas que vous allez y aller en claquettes chaussettes. Je pense que vous allez bien vous apprêter pour cela. On va sélectionner les habits que nous allons porter, souvent une tenue distinguée. On va peut-être aller chez le coiffeur, on va prendre une bonne douche, se couper les ongles, mettre du déodorant, du parfum, bref, on va se préparer extérieurement pour être présentable. Sauf que Dieu, lui, il regarde au cœur. Quand on parle de pureté dans le Lévitique, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de pureté extérieure, mais bien de pureté intérieure. Or, le problème est que si l'on peut être au top au niveau des regards que les gens portent sur nous, on peut être très présentable, avoir du charisme, de la prestance. Cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur, on est au top également. On est toujours surpris quand on apprend des histoires qui sortent d'un coup, la vérité éclate. Oh, mais il était tellement bien, tellement beau, tellement... Et en fait, on se rend compte qu'à l'intérieur, il cachait certaines choses. Et notre texte est très intéressant sur le sujet parce qu'il évoque les maladies de peau évolutives. Pour peu que cette maladie soit une partie visible, comme le visage ou les mains, ça va très probablement attirer l'attention. Ah, ça se voit que lui, il a un problème. Et je suis assez bien placé pour le savoir, car j'ai ce qu'on appelle une dermite séborique sur le visage. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous l'ont déjà remarqué en me disant « Oh, t'as attrapé un coup de soleil aujourd'hui » ou « Dis donc, t'as la peau qui est très sèche ». Bon, c'est pas voulu. J'ai une maladie qui ne se traite malheureusement pas très bien. Mais du coup, je suis bien placé pour savoir ce que c'est que d'avoir une maladie de peau. En fait, à la lumière du chapitre 13 qui précède, nous comprenons que c'est le mélange de la chair saine avec la chair malade qui rend impur. Le diagnostic effectué par les prêtres conduisait le malade à vivre un temps hors du camp israélite. Alors, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, la suite va peut-être vous intéresser. Si ça peut nous sembler être une double peine, attends, non seulement il est malade, mais en plus, il est rejeté, il s'agissait en fait simplement d'une mise en quarantaine. Comme on le pratique toujours aujourd'hui, vous vous rappelez de la période du Covid, hein, où on devait tous se séparer des uns des autres. De plus, cela enseignait aussi que le mal ne devait pas se trouver au milieu du peuple de Dieu, lui qui est appelé à être saint et donc à ne pas être contaminé. Si aujourd'hui notre société n'a gardé que l'aspect médical, il est toujours utile pour nous croyants de considérer son aspect spirituel. Parce que les affections qui défigurent le corps, qui sont visibles et actives, elles évoquent le mal qui corrompt l'homme. Je veux bien sûr parler ici de la corruption du péché qui nous touche tous. Ici, la maladie est présentée comme l'une des conséquences de l'entrée du péché dans le monde. Alors, attention cependant au raccourci qui consisterait à juger une personne sur cette déclaration. Tu es malade parce que tu as péché. Et ça, ce n'est pas quelque chose de si rare hein, qu'on peut entendre. Mais d'autres textes bibliques nous enseignent que ce raisonnement hâtif n'est en fait pas justifié. Jean chapitre 9, versets 1 à 3. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. « Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Il y a une différence entre croire que telle maladie est un châtiment pour un péché et croire que la maladie est une conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Et la nuance, elle est importante, car elle ne porte plus sur une faute précise, mais bien sur une anomalie, celle de la corruption de notre être par le péché. Alors revenons à notre texte. Si le prêtre constate que la personne est guérie, celle-ci doit se plier à tout un rituel de purification. On se procure deux oiseaux, l'un est égorgé, l'autre est trempé dans le sang du premier, avec d'autres choses couramment utilisées dans les rites de purification. Il y a notamment Nombre 19, Psaume 51 et Ésaïe 1 qui en parlent aussi. Le sang est aussi aspergé sur l'Israélite, ce qui montre que le second oiseau lui est identifié. Il est relâché au moment de la déclaration de pureté, ce qui symbolise la liberté retrouvée par l'Israélite. Tu as désormais le droit de revenir. Et là, d'un coup, hein, l'aspect technique il prend une dimension qui, je le crois personnellement, est belle. Pour ça que le psalmiste, finalement, il arrivait à trouver sa joie dedans. Après quoi, il peut réintégrer le camp, mais pas encore son foyer. Le septième jour, il se lave et se rase. Le huitième, il offre un sacrifice de réparation, un pour le péché et un holocauste accompagné d'une offrande. Alors, d'après un commentateur que j'apprécie beaucoup, Sylvain Romeroski, le sacrifice de réparation est sans doute offert à cause du culte dont le Seigneur a été privé pendant le temps où l'Israélite était impur. Ça, c'est intéressant. Pourquoi l'Israélite qui redevient pur, il doit offrir en plus au Seigneur un sacrifice de réparation? Ça veut dire qu'il a quelque chose à réparer. Et la compréhension que je crois que le commentateur en fait là est très intéressante. Car si tel est bien le cas, cela met une nouvelle fois le doigt sur notre manière aujourd'hui de considérer le culte que nous rendons à l'Éternel et au Fils. L'Israélite était redevable auprès de Dieu des cultes qu'il a manqués, et cela lui était même coûteux. Parce que les animaux qu'il doit offrir là, ce n'est pas des animaux qui coûtent rien, hein. Les brebis galeuses, les vieux de son troupeau qui valent plus rien. Non, jeunes, donc dans les premières années, totalement parfaites, donc vraiment sans défaut. Autrement dit, c'est les animaux les plus chers qu'il doit sacrifier à Dieu. Donc ça représente un réel coût économique à l'époque. C'est comme si aujourd'hui, j'essaye de trouver un peu un équivalent, mais... tu disposes du dernier iPhone, tu as manqué des cultes au Seigneur, tu lui offres ton iPhone, voilà, tu t'en sépares. Là, tout de suite, c'est plus la même. Hein. Ça fait réfléchir. Donc, c'était même coûteux, l'animal et des finances. Si aujourd'hui, nous avons bien entendu plus de règles spécifiques par rapport au culte, je crois que ça doit nous interpeller. La manière dont on considère le culte que l'on vient rendre au Seigneur. Pour nous, c'est peut-être juste le rendez-vous du dimanche, le truc classique. Pour Dieu, ce n'est pas rien du tout. C'est très important. À tel point que pour l'Israélite de l'époque, quand il en manquait, il était redevable. Il devait offrir un sacrifice pour réparer les cultes qu'il avait manqués. Petite parenthèse, hein. Je me permets de le faire. Réfléchissez-y quand vous avez l'habitude d'être en retard au culte. Peut-être pour vous, ça ne coûte pas grand-chose. Les frères et sœurs s'en rendront pas compte. Mais pour le Seigneur, ça veut dire quelque chose. Je ferme la parenthèse. Nous qui sommes une communauté de prêtres, quel est notre rapport au culte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un impact quand je rends un culte qu'une fois toutes les X semaines? Quand je viens pas tout le temps, que je viens quand j'en ai envie ou quand j'ai réussi à me lever le dimanche matin. Si l'impact n'est plus financier et rituel, je crois qu'il n'est pas sans conséquence sur notre relation avec Dieu. Et là, vous voyez, je refais volontairement le lien entre religion et relation avec Dieu. Il y a un effet, hein, ce dont nous avons parlé. Revenons à notre Israélite. Le sang du sacrifice était ensuite appliqué sur le lobe de l'oreille, son pouce et son orteil droit, tout le côté droit. C'était ce que l'on faisait, en fait, lorsqu'un prêtre était installé. Alors, si jamais vous me votez à l'issue de mon année probatoire, je ne vous demanderai pas de faire ça. Mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait quand on installait un prêtre dans ses fonctions. Et c'est intéressant, car par ce rite, on remettait l'Israélite dans sa vocation première, on le réinstallait dans sa place, dans son rôle, être un roi prêtre et être saint. En fait, c'est une reconsécration pour qu'il offre de nouveau un culte au Seigneur. Le texte nous parle ensuite de la loi sur les moisissures et les maisons. Je n'ai pas lu le texte, c'est les versets 33 à 53. Vous pourrez lire chez vous si vous en avez envie. Ce qui est intéressant, c'est que le moment où cette loi est donnée, les Israélites vivent encore sous des tentes. Ils n'ont pas encore de maison. Alors comment comprendre cette loi? En fait, elle est donnée par anticipation. Car le peuple juif a pour mission de prendre possession de la terre promise et de s'y installer. Cette loi prendra alors plus tard tout son sens. Comme pour la maladie, les moisissures qui s'étendent sur les murs d'une maison évoquent la corruption produite par le péché et suggère que le péché humain affecte son environnement. On a un texte très bien qui en parle, c'est Romains 8. Vous savez, quand l'apôtre Paul il dit que la terre, toute la création, tout entière, souffre les douleurs d'un enfantement et aspire au relèvement des fils de Dieu. Vous voyez ce texte? Ce n'est pas seulement les êtres humains qui souffrent du péché, hein. C'est aussi toute la création, les animaux, la faune, la flore, toute la terre est impactée par la corruption du péché. Si la corruption du péché nous touche toujours, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes purs. Mais pourquoi? Et c'est mon troisième point. Notre pureté acquise par le Christ. Dans l'Évangile, Jésus fait quelque chose en rapport avec ce type de maladie de peau. Il guérit des lépreux. Ces guérisons sont le signe qu'il est venu délivrer les croyants de toute impureté qui découle du péché. Il est d'abord intéressant de relever que Jésus accompagne souvent ces guérisons de la formule « purifié de tout péché ». Et peut-être que ça vous évoque en tête, je ne l'ai pas mis là, mais un autre texte, Ésaïe 53,4, vous savez. « En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. » Et Matthieu 8, de rapporter ses propos, « Le soir venu, on lui amena à Jésus beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassait ses esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a porté nos maladies. » Ésaïe a rédigé son texte plus de, je ne sais plus, c'est 4 ou 6 siècles avant la venue du Christ. Et Jésus a accompli. Petite parenthèse ici, là. Ça, pour moi, c'est un argument fort que la parole de Dieu est vraie. Ce qu'elle dit s'accomplit. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais elle s'accomplira un jour. Beaucoup de paroles de l'Ancien Testament se sont déjà accomplies en Jésus-Christ. D'autres restent à venir et j'espère que votre espérance en est remplie. Je ferme la parenthèse. Pour celui qui croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, venu sur terre pour faire la volonté du Père, pour mourir à notre place en payant notre condamnation, l'impureté est désormais ôtée en vertu de la croix. En vertu de la croix. Certains ont mal compris et interprété ces versets. Ils en ont déduit que le croyant véritable ne pouvait donc plus tomber malade, allant même jusqu'à affirmer que si tu tombes malade, alors il faut te poser des questions sur ton salut. Voilà le genre de discours que nous avons pu entendre de la part de certains prédicateurs pendant la pandémie du Covid-19. Je crois qu'il s'agit là d'une exagération de la parole de Dieu. Beaucoup de croyants véritables tombent malades, parfois même gravement. Vous en connaissez sûrement. D'ailleurs, des personnages bibliques importants ont également été touchés par la maladie. On peut penser à Job ou on peut penser à l'apôtre Paul. Vous voyez cette écharpe dans la chair là. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est. Personnellement, je pense que c'est son problème qu'il avait aux yeux et qu'il évoque dans l'épître aux Galates. Et pour autant, il ne nous viendrait pas à l'idée de remettre en cause leur salut. De dire que l'apôtre Paul, parce qu'il était malade, peut-être qu'il n'était pas sauvé. Waouh ! Il en faut du culot hein, pour sortir celle-là. Hein. Ce n'est pas parce que la victoire à la croix nous est acquise que les résultats sont immédiats. Nous sommes toujours pécheurs, malgré nous. Et nous tombons toujours malades. Pourtant, la résurrection constitue une promesse, celle d'avoir des corps glorifiés, parfaits, incorruptibles, sans maladie. 1 Corinthiens 15. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Voilà ce qui nous attend. C'est là qu'elle est, la vraie guérison. En conclusion, la notion de pureté sous la Nouvelle Alliance n'est plus d'ordre rituel. Mais elle est toujours d'ordre moral. Ah, on ne va pas tout enlever quand même. La pureté rituelle exigée sous l'Ancienne Alliance était une image de celle morale qui elle tient toujours. En tant que membres du peuple que Dieu s'est acquis par son sang, nous devons travailler à notre purification morale, à rechercher la volonté de Dieu et à nous y conformer. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Puisque nous sommes tous prêtres aujourd'hui, je l'ai dit en préambule, 1 Pierre, nous devons viser un degré maximal de pureté morale. Si le Christ est mort, n'est-ce pas aussi pour nous purifier ? Éphésiens 5. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Après l'avoir purifiée par sa parole, la parole de Dieu doit être active dans nos cœurs. Elle ne doit pas rester sans effet, elle doit produire des actes. Après l'avoir purifié par sa parole comme par le bain nuptial, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Autrement dit, pur. Amen.